Bonjour, nous venons d'entendre Agnès Sobel et sa voix merveilleuse, et c'est pour accueillir une autre merveilleuse, à
Oui.
savoir Véronique Bril, qui est l'artiste, photographe, et qui vient pour évoquer un superbe projet intitulé Le Larzac et les Guetteurs, qui se déroulera le 10 août, c'est-à-dire mardi, prochain,
oui.
à 10h, au hameau de Saint-Martin de Larzac. Avec, elle lèvera des pierres, elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Il y aura aussi une balade poétique, musicale, récréative, revendicative, j'imagine. Et ensuite, ça se terminera à 15h au hameau des Truelles par un pique-nique. Et elle est accompagnée par Pierre Varin et Gilles Allaire dans ce périple. Premièrement, je vais vous demander peut-être, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est le Land Art, que vous le disiez, puisque vous êtes quand même la grande spécialiste et que vous partez par Mons et par Vaud pour pouvoir présenter des créations.
Bonjour.
Un petit problème technique.
Bonjour d'abord. Le Land Art, c'est...
Et comment est née chez vous cette passion?
D'accord. Alors, le Land Art, c'est un mouvement qui a commencé dans les années... Ouais, à peu près milieu du... de 1960 à peu près, je pense que c'est plutôt comme ça à peu près. Et c'est un mouvement d'artistes qui ont décidé de faire de l'art
à l'extérieur,
dans le paysage, parce que c'est toujours dans les musées, toujours dans les galeries, etc. Et il y avait beaucoup de choses à faire dans
l'extérieur. Et qu'il y a des choses extraordinaires comme ça avec lesquelles on peut créer.
Et oui.
Éphémères, certes.
Éphémères, la plupart du temps.
Pas toujours.
Les gens ont envie que ce soit de plus en plus pérenne. Mais comme simplement pour vous mettre un peu sur la piste, vous avez comme des land artistes extrêmement connus, vous avez Richard Long, vous avez Christo, tiens, on va recommencer, on va emballer l'Arc de Triomphe.
Le Triomphe, oui.
Voilà, ça c'est un grand land artiste. Vous avez Andy Goldworthy qui fait des choses absolument magnifiques, c'est un Écossais qui fait des choses sublimes. Et un autre exemple, c'est Walter de Maria qui avait peint, qui a fait toute une installation dans le désert de l'Arizona. Mmh. Et lui, dans ce désert, il y a beaucoup d'orages. Donc son œuvre, il a planté des piquets. Il y a une petite cabane un peu plus loin. Il a planté des piquets de métal. Et l'œuvre, c'est quand il y a de l'orage.
D'accord.
Et que les orages viennent, que les éclairs viennent se fracasser sur le... Uh-huh. Enfin, se fracasser, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin bon,
oui, c'est comme ça.
Et donc voilà. Voilà pour le Land Art.
Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer le Land
Art? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie
Parce que vous avez une formation classique au départ?
Pas du tout, je n'ai aucune formation.
Autodidacte, donc.
Complètement autodidacte, et je dirais même que j'ai commencé en faisant... en jouant, et je continue à jouer. C'est mon téléphone qui fait ça?
C'est possible. C'est...
Non, mais il ne veut pas se taire, celui-là. Pardon.
Non, continue.
Ah, mince, on était là.
Pardon, je suis un peu naturelle.
Ouais. Non, c'est pas grave, c'est très bien. C'est très vivant, très enjoué.
Oui, en fait, j'ai un jour croisé des pierres. J'ai toujours aimé les pierres.
Oui, vous avez une fascination pour
les pierres, c'est mes copines depuis très très longtemps.
Depuis que vous étiez enfant aussi, vous aimez bien jouer avec les pierres?
J'ai toujours aimé jouer avec les pierres, avec les fleurs, avec ci, avec ça. Toujours, j'ai fait.
Avec la nature, dans ce que la nature.
Avec la nature, beaucoup. Oui, avec la nature, beaucoup. Et puis un beau jour, j'ai vu au bord de l'océan des gens qui avaient quelqu'un qui avait levé des pierres, qui avait empilé des pierres, une, deux, trois, quatre sur le plat. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. C'était à marée basse et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. J'ai été subjuguée. Alors comme tout le monde, j'ai fait pareil. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si je lève dans un équilibre un peu plus incertain, et si je reste à deux, trois pierres,
qu'est-ce
que ça fait? Et j'ai été très émue par ce qu'elle me racontait. Je les ai appelées les guetteurs. Guetteurs parce qu'ils regardent... Ils regardent l'infini, ils peuvent regarder le changement du monde, ils peuvent...
Sont comme des sentinelles, là, qui quelque part...
Voilà, oui, c'est ça.
Qui
sont aussi des gardiens, en effet, qui sont des gardiens. Et puis, il y avait cette contradiction entre cette espèce de force qu'ils dégagent. Quand une pierre est en équilibre, elle dégage une force assez puissante, même si elle repose sur quelques millimètres. Mais c'est aussi extrêmement fragile. Et ce parallèle-là me plaît.
Entre la force et la fragilité, donc.
Oui. Oui, oui, parce qu'on peut se croire très fort, on est tellement éphémère. Oui, oui. Voilà, c'est un peu ça aussi.
D'accord. Et en fonction des pierres, j'imagine qu'elles ne dégagent pas la même chose, selon la nature de la pierre.
Pas du tout, en effet.
Et l'endroit où elles sont, si elles sont au bord de l'eau, si elles sont dans un pré, enfin...
Ah oh, ben oui, c'est ça. Ça dit complètement autre chose. J'ai beaucoup travaillé au bord de la Méditerranée ou au bord de l'océan. Au bord de la Méditerranée, je vivais à La Ciotat, donc c'était facile. Oui. Un coup de lumière, les plages de galets magnifiques. Donc, j'y allais très, très souvent. Et puis, à Marseille, j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai aussi travaillé lors de la construction d'une autoroute. Donc là, c'est pas du tout pareil. Et puis, j'ai aussi travaillé avec des fracas de béton dans la démolition du quai J3 à Marseille. Donc, c'est
Vous
toujours
pouvez
du
dire
minéral.
Qu'est-ce que c'est le J3 ?
Ah ben oui, pardon. Le quai J3 à Marseille, c'est un des quais historiques du port autonome de Marseille. Et un beau jour, ils ont décidé de le démolir. Et donc, je ne pouvais pas laisser passer ça sans passer sous les grilles, sans vouloir faire des installations, parce que...
Ça vous révoltait.
Quand même. C'est pas que ça me révoltait, c'est que c'était un passé qui partait.
Oui, d'accord.
Et
donc, vous voulez signifier quelque chose.
Oui, je voulais raconter aussi toute cette histoire, tout ce qui disparaissait là. Il y avait, parce que d'abord, il y a... c'est probablement de là que j'ai dû débarquer enfant, parce que je suis née en Algérie.
Et oui, en quelle ville, en Algérie?
Alger.
D'accord.
Et c'est vrai que...
Vous avez passé votre petite enfance en Algérie ?
J'ai quitté, j'avais 3 ans.
Ah, vous étiez
34 ans,
petite,
oui. Donc j'ai peu de souvenirs, j'ai pas du tout de souvenirs de mon arrivée. Mais un jour que je me promenais dans le coin, j'avais vu que je faisais une installation pour Marseille 2000, c'était l'Odyssée 2001, l'Odyssée de la paix,
oui.
avec Richard Martin. J'avais fait une installation et j'avais vu les gens derrière... qui regardaient, et beaucoup regardaient d'immigrés qui arrivaient pour regarder. Et j'avais été très touchée par cela, et je me suis dit, c'est aussi le quai de l'immigration et de la migration, c'est le quai des échanges de dockers. Enfin voilà, voilà pourquoi ça me semblait important.
D'accord. Et il faut dire aussi que quand vous faites comme ça des installations, qui souvent se vivent dans l'éphémère, vous faites des photos aussi, puisqu'il y a des photos de guetteurs.
Enfin, oui. Alors,
c'est un autre versant de votre travail.
C'est un autre versant, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai commencé à faire des installations, et puis les photos n'étaient que des traces de ce que je faisais.
Ouais.
Puis à un moment donné, j'ai fait en effet des installations pour la photo, ce qui n'était plus du tout pareil, bien sûr, puisque là, j'allais guetter la lumière, l'angle.
Oui, c'est une autre démarche.
Voilà, c'était une toute autre démarche. Après, je fais... Les guetteurs ont vraiment, véritablement été mes premières créations.
Ce sont vraiment... vos compagnons de route.
Toute façon mes compagnons de route, même si je n'en fais plus beaucoup. Il se trouve que là, le hasard me ramène au guetteur.
Et justement, comment cela s'est fait, cette rencontre à l'occasion des 50 ans du Larzac, c'est
oui,
ça hein
Oui, c'est ça.
De cette fabuleuse histoire de ces gens qui ont lutté. Et c'est, comment dire, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est important de rappeler que quand des gens sont ensemble et ont un projet auquel ils tiennent, finalement, ils arrivent à faire plier
quand
le
même,
pouvoir.
Quand même, ils ont réussi.
Parce que c'est quand même l'extension d'un corps militaire. Quoi. Il faut quand même, pas rien.
On va essayer de remettre un tout petit peu d'expliquer un tout petit peu ça pour les plus
qui
jeunes
peut-être. Qui seraient trop jeunes, et oui, bien sûr.
Pour les plus jeunes, mais en effet, c'est en 1971, le gouvernement, c'est Debré Pompidou, c'est Pompidou, je crois. Qui est-ce qui a remplacé
Oui, parce qu'après, oui, c'est ça.
C'est juste, celui qui a réussi à sortir de là, c'est Mitterrand, c'est l'élection de Mitterrand. En tout cas, le gouvernement avait décidé d'élargir le temps du camp du Larzac, de l'étendre sur plusieurs milliers de mètres carrés de plus que ça, et d'expulser 103...
Les personnes qui y vivaient, qui y travaillaient.
103 fermes, 103 paysans, et ces 103 paysans...
Se sont rebellés.
Avec leur famille et tout, se sont rebellés, et ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé faire.
Ah oui, c'était pas dans leurs habitudes.
Non, mais c'est extraordinaire de les rencontrer, de les écouter nous parler de cela, parce qu'ils sont, pour beaucoup, ici encore, et ils ont quand même réussi. Après, ils ont été... Leur force, ils avaient tellement... Leur cause était tellement juste aussi que peu à peu, ils ont quand même
glané des soutiens, notamment de la part de communautés hippies ou libertaires, enfin, ou les deux.
Oui,
enfin...
mais aussi beaucoup d'intellectuels.
Oui, oui.
Ça a été un mouvement énorme.
Un élan,
énorme. qui s'est soldée par une victoire au moment de l'élection de Mitterrand, qui a dit OK. L'extension ne se fera pas. Lieu.
Oui, d'ailleurs, il avait été là-bas.
Oui, il était allé au Rajal, le Rajal, qui est un endroit absolument sublime. C'est comme un cirque avec entouré de pierres debout. Alors, elles ne sont pas debout. Enfin, c'est extraordinaire. Oui. Pour qui connaît Larzac ou qui a envie de le connaître,
oui,
il faut aller.
Oui, il y a des pierres naturelles, enfin, qui sont là depuis des lustres, si l'on peut dire.
Oui, c'est ça. Ce sont des pierres sublimes,
des grands rocs qui résistent au temps,
à l'histoire. Et donc, il y a eu une érosion, mais certaines pierres sont encore debout. Et enfin, certains rocs, c'est énorme, hein, quand je dis des pierres.
Oui, c'est vraiment des gros morceaux.
C'est quand même des gros morceaux, ouais, quand même.
Et vous le dites dans la présentation de l'événement, nous sommes à côté de ces pierres, qui sont des géants, ou des géantes plutôt.
Ouais.
Nous sommes,
Des nains.
Nous sommes petits.
Ridiculement petits. Et en fait, c'est vrai que c'est très drôle, parce que Pierre Vuarin, qui est à l'origine... qui avait un jour vu mon travail, et puis je lui avais raconté l'histoire des pierres et des guetteurs et de ses performances, m'avait dit, mais pour les 50 ans du Larzac, de la lutte du Larzac, ce serait peut-être bien de venir faire des choses. Moi, je m'étais dit, le Larzac, j'ai toujours regardé le Larzac en disant, c'est sublime, mais c'est
comme
pas...
paysage.
Magnifique. Paysage magnifique. Mais attention, le paysage est tellement sublime que qu'est-ce que je vais aller chercher, mes médiocres petits guetteurs qui vont se lever. Et j'avais toujours dit, non, s'il y a bien un endroit où je n'irai pas, c'est là, parce que c'est vraiment on ne lutte pas contre un paysage pareil, c'est pas la peine, qu'est-ce que je vais rajouter. Et puis
il a réussi à vous persuader, c'est ça?
Ah, il a réussi, il m'a...
Racontez-nous.
Racontez les histoires. Ben, c'est qu'un jour il m'a envoyé quelques photos de ses guetteurs
immense, donc
si non, ils étaient non. Les guetteurs naturels, ceux-là, enfin les pierres naturelles du les rocs qui sont debout, non, ça on n'y touche pas. D'accord. Mais lui-même, un jour, il s'est essayé, parce que comme tout le monde, on a envie de jouer avec les guetteurs, hein, avec les pierres levées. Donc il l'a fait un peu, et puis je me suis dit, il m'a un peu
grignoté.
Ouais, il m'a piqué. Faut que j'aille voir ça quand même.
Je lui montrais que moi aussi, je peux et je sais.
Ben, je sais pas. En tout cas, bon, ça m'a piqué. Et je me suis dit, ok, je vais voir ça. Je vais voir avec lui ce qu'on peut faire.
Et donc, vous avez fait, comment dire, vous êtes parti à repérage, si on peut dire, comme pour le cinéma.
Oui, oui, bien sûr. Là, il fallait quand même, de toute façon. Donc, je suis allée regarder ce Larzac, me dire que au Rajal, on n'y touche pas. Uh-huh. La mairie aussi aurait bien aimé que je fasse quelque chose au Larzac. Au Rajal. Mais non, c'était, on touche pas à un lieu aussi emblématique, aussi fort. On fait pas ça. Enfin, pas pour moi. C'est beaucoup
plus
modeste.
On se contente de le regarder,
On l'admire.
De réfléchir,
voilà,
de se laisser porter.
On fait tout ça, mais non, on touche pas à des choses comme ça quand même. Non. Alors, en tout cas, pas moi.
D'accord.
J'ai pas envie, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Ce serait ridicule pour moi. Voilà. En revanche, donc, on a exploré plusieurs endroits, et puis il y a un endroit qui me semblait parfaitement adapté, c'était derrière Saint-Martin du Larzac. Mmh. J'oublie simplement une chose, pourquoi est-ce qu'on fait des guetteurs ici en parallèle avec le cinquantenaire? C'est bien parce que cette lutte des 103 paysans qui se sont... qui se sont battus
avec
pendant 10 ans.
Avec une énergie folle, démentielle.
Une énergie démentielle.
Ils ont tenu sur le temps aussi.
Voilà, ils ont tenu.
Parce que ça s'est pas fait
10 ans.
Ouais,
ils ont tenu 10 ans quand même. Aidés par les autres aussi, mais quand même, eux ont travaillé d'une manière extraordinaire. Ça a complètement changé leur vie et leur façon de voir aussi. Et c'est justement, ils étaient tout petits face à ce gouvernement.
Oui, bien sûr. Oui. Face à l'État, oui.
Hein, face à l'État, face à ce grand désir de puissance, Eh bien, si petits, parce qu'ils étaient très nombreux, ils ont quand même gagné. Mmh. Et en fait, tout à coup, j'ai vu la cohérence et la pertinence de faire que tous ensemble, parce que c'est pas que moi, là, j'invite les gens à venir.
Oui, vous les initiez de certaines manières à lever des pierres.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. La danse avec la pierre, c'est vraiment une danse, hein, parce qu'il faut trouver l'équilibre, on se balance avec elle, on le cherche. L'équilibre, c'est quelquefois sur quelques millimètres.
Bien sûr.
Il ne faut jamais lutter, c'est pas la peine de forcer. C'est plutôt une concentration, un calme. Et hop, la pierre se... Et là, quand la pierre se pose et tient, c'est vraiment un tel bonheur.
C'est l'heure du miracle.
C'est, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu magique. Qui, voilà, et c'est vraiment un bonheur. Et pour l'avoir expérimenté de très nombreuses fois avec de très nombreux publics, je sais ce que ça peut faire. Donc voilà, on va essayer de cheminer. On va enlever quelques-unes. On va lever en principe 21 pierres.
Pourquoi 21 ?
Parce que c'est le 20... Alors ça, c'est Pierre Vuarin qui a voulu, parce que c'est 2021.
D'accord.
N'importe quoi. 2021, 21e siècle.
D'accord. Qui est Pierre
Pierre Vuarin, c'est un... Eh ben, c'est un ancien du Larzac qui n'était pas du Larzac, qui n'est pas agriculteur, mais qui a participé très largement à la lutte... du Larzac.
C'est un intellectuel, c'est...
Oui, aussi, bien sûr. Mon Dieu, Pierre, si tu m'entendais, tu me dirais, mais écoute, tu sais même pas. Oui, bon, d'accord. Bon, il faut aller chercher Pierre Vuarin. Il est, entre autres, il est membre de l'UITC, l'université. Oh, ouf. Bon, écoutez.
Tu es universitaire, c'est ça?
Oui, c'était un universitaire, mais là, c'est pas pareil. C'est vraiment un grand organisme. Bon, j'ai honte parce que j'ai encore oublié.
Mais il était universitaire dans quel domaine, vous savez ?
Je pense que c'était je crois que c'était dans l'agriculture aussi, puisque... D'accord. Oui, là, c'est vraiment beaucoup de gens aussi de l'agriculture.
De l'agronomie, donc, c'est
de
ça,
l'agronomie, d'accord. Oui. Mm-hmm. Bon, il faut pas trop m'en dire parce que j'ai encore... voilà.
Et bon. Comment le connaissez-vous, si ce n'est pas indiscret ?
Mais parce que mon compagnon est Gilles Allaire, qui est un ancien chercheur de l'INRA, et qu'ils se sont connus, que d'accord. Gilles, qui faisait... qui avait monté d'ailleurs, je crois, Pierre aussi faisait partie de la GOP et du mouvement Nouvelle Campagne.
D'accord.
La revue Nouvelle Campagne, qui était assez réputée.
D'accord.
Et donc, oui, ils ont fait partie de cette lutte-là. Voilà, donc j'ai rencontré Pierre et voilà, et puis...
De fil à l'aiguille, vous vous retrouvez tous les trois.
Voilà, on se retrouve tous les trois parce que c'est vraiment un projet qu'on a écrit tous les trois.
Oui, j'imagine.
Avec le grand désir de Pierre, aussi se colter à la réalité, parce que les pierres ne sont pas toujours très simples, surtout particulièrement celle-ci, par exemple. Là,
en plus aussi, ça dépend de la météo. S'il pleut, ce n'est pas la même chose que s'il y a un soleil.
Pas du tout, ce n'est pas du tout pareil. Puis s'il y a du vent, c'est encore différent.
Chose,
ouais. Il va falloir faire plus lourd.
Et oui.
Voilà, il y a toujours, en effet, nous, on est vraiment tout à fait dépendant du temps et du vent.
Composé avec. Et ça renvoie à l'humilité de l'être, de la condition humaine, me semble-t-il.
C'est un travail très humble pour moi. C'est l'équilibre, le travail de l'équilibre avec les pierres, c'est un travail de concentration, de plaisir et d'humilité. Mm-hmm. Beaucoup d'humilité. En plus, c'est tellement petit. Nous sommes petits et ce qu'on va lever, même si on les lève à deux ou trois, elles seront quand même petites. Voilà, donc c'est cette fragilité qui est intéressante.
Qui vous
aussi.
Intéresse.
Oui. Et puis que, peu à peu, je suis à peu près certaine que un peu plus tard, comme toujours, d'autres guetteurs se lèveront, bien après les nôtres, parce que les gens ont toujours levé des pierres. C'est une vieille histoire, de toute façon, l'amour des pierres.
Vous voulez dire d'un point de vue anthropologique, enfin.
J'ai un peu mélangé les deux parce qu'en fait, pour les guetteurs, c'est vrai que à chaque fois que j'ai fait des performances, particulièrement dans le sud-est de la France, j'ai toujours vu de plusieurs semaines après que j'ai fait une performance ou une installation, d'autres guetteurs qui sont nés, qui n'étaient pas les miens.
D'accord.
Loin de là, mais ça fait des petits, hein.
Oui, oui.
Et ça continue encore
ça
un
fait
peu
des
partout.
Émules.
Ah, ça fait des émules partout. Partout, quand on a commencé à jouer aux pierres, on continue. Et c'est un vrai bonheur.
Et donc là, concrètement, il y a un rendez-vous le matin à 10h, c'est ça?
Oui. Alors,
comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens, un nombre limité de gens ou pas?
Non, pas du tout. C'est ouvert à tous. Oui. On n'a pas besoin de s'inscrire.
Il faut aimer marcher, déjà.
Oui, la marche ne sera pas très grande. Elle va durer à peu près 1h30. On va traîner.
Il y a des petits chiens qui nous accompagnent.
J'ai mis mon téléphone en silencieux, mais ce crétin, je sais pas pourquoi.
Ce sont des petits chiens, mais ça peut... Les chiens sont acceptés
et
dans
mon
la
rire.
Balade.
Et mon rire aussi, oh mon Dieu, j'ai honte, pardon.
Les chiens sont acceptés dans la balade dans la...
Les chiens sont acceptés, oui.
D'accord.
Oui, les chiens sont acceptés. Après, il faut faire... attention aux brebis, quoi. Voilà, c'est tout. On peut en croiser aussi. Donc, comment ça va se passer? On va d'abord, réunion, on se rassemble vers 10h. Il va y avoir quelques personnes qui vont intervenir et
expliquer, qui vont
prendre
la parole.
D'un
point de vue historique, d'un point de vue militantisme, sans doute,
sans doute. Bien sûr qu'il y aura ce genre de choses.
Des prises de photos, peut-être
Très certainement, mais là, j'y serai pas. Là, c'est pas moi qui vais les faire, sans doute, parce que je pourrais pas. Ensuite, moi, je vais quand même initier les gens. Je vais leur raconter ce bonheur que c'est que de lever les pierres et de danser avec elles. Et ben, on va passer ensuite aux exercices pratiques.
C'est-à-dire à lever les fameuses pierres.
C'est-à-dire lever les pierres, l'éprouver, le
voir
sentir.
Voir comment elles peuvent
tenir. Comment elles peuvent tenir, qu'on ne casse pas la pierre.
Ah non, il vaut mieux pas, oui.
On la laisse telle qu'elle est, on cherche son équilibre dans une anfractuosité avec une autre pierre, etc. Mais on fait très attention et on reste modeste. Cette initiation. Et ensuite, on cheminera le long de... pour aller jusqu'au hameau des Truelles. Et tout en... Quand on croise des pierres, on s'arrête et on enlève. On s'exerce aussi, c'est vraiment la rencontre, le regard dans ce paysage. Et puis, lever les pierres, toujours. Et puis, si d'autres ont envie de... Si quelques personnes ont envie de lire un texte, de chanter
une chanson... Oui, parce qu'il y a aussi, voilà, il y a des choses qui sont prévues.
C'est...
Hein,
Rien n'est prévu.
Mais des gens peuvent intervenir.
Voilà, rien n'est prévu. Tout est ouvert à... Au gré de l'inspiration de chacun.
Ce que justement ces pierres évoquent, et qu'est-ce que ça donne envie de dire, ou de chanter, ou de danser,
Ou de danser, c'est complètement...
Parce que quand vous parlez de Land Art, il y a des gens aussi qui font de la danse dans les milieux naturels.
Oui.
Vous avez déjà travaillé avec des chorégraphes qui font cela?
Oui. Ma première performance, c'était lors du Sentier Pyrénéen. C'était en 2000 ou 2001, je ne sais plus. 2001, 2000. Et... Non, c'est 99, pardon. Et en fait, j'ai fait une installation dans un torrent. C'était tout un itinéraire dans les Pyrénées, toute une randonnée où moi, à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je devais travailler à cet endroit-là. J'étais partie un peu en avance. J'avais levé des pierres dans le torrent. Et puis à ce moment-là, un peu plus tard, une danseuse buto était intervenue, accompagnée par un musicien... par un saxophone.
C'était qui la danseuse? Vous ne le savez pas? Non.
Faut pas me poser des questions.
Écoutez-moi, c'est ma manie.
Elle est embêtante. Hein. Non, j'ai une mémoire de chou-fleur. C'est-à-dire qu'il y a les circonvolutions, il y a tout ça.
D'accord, c'est pas grave.
C'est un problème. D'accord. C'est un problème pour moi.
Non, mais je me dis qu'en plus, la rencontre entre le buteau et la pierre, ça...
Ah, c'était fort, hein.
Oui, c'est chargé.
Oui, c'était très, très
fort. Et
ça
renvoie à quelque chose de très archaïque, d'une certaine manière.
Complètement. Oui, c'est... Mais justement, c'était vraiment très archaïque, mais très... Très profond. Oui, c'était très touchant. Mm-hmm. Voilà.
Vous avez fait d'autres rencontres comme ça avec des chorégraphes?
Après, oui. Bah, quand j'ai organisé des performances à Marseille sur la place du Prophète ou à La Ciotat aussi, sur la plage des Pèlerins. Et non, c'est pas la plage des Pèlerins, peu importe. Voilà, c'est ma mémoire. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est l'âge. J'ai toujours invité d'autres artistes. Et il y avait une chorégraphe qui s'appelle Huguette Schneider, qui est très souvent venue. Je l'appelais, je lui disais, Huguette, tu veux pas venir là? Ok. Elle découvre le lieu, elle intervient, elle fait des choses superbes avec sa musique ou son musique. C'était quelqu'un de... Oui, la danse, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand même avec ça.
Oui, puis c'est intéressant aussi pour le danseur de se confronter au sol, quoi.
De se confronter au sol, aux pierres. Et puis,
à comment ça...
C'est ça, il y a
la sonorité ambiante aussi.
Et puis, il y a le parallèle aussi dans le fait que quand on est en train de mettre des pierres en équilibre, c'est vraiment... une danse avec la pierre.
Et oui, aussi, oui.
C'est quelquefois du bout des doigts. C'est aussi, une fois que la pierre est levée, c'est presque du bout des doigts.
C'est une rencontre.
Mais c'est un corps à corps, beaucoup, quand les pierres sont très grandes. C'est vraiment avec tout le corps qu'il va falloir le bouger. Parce que forcément, l'équilibre ne se trouve que tout seul. On ne peut pas le faire à plusieurs. C'est-à-dire que si une pierre est très grosse, ça m'est arrivé assez souvent de lever les pierres. J'ai deux, trois personnes qui m'aident à lever la pierre. Qui vont être là pour assurer, parce que si la pierre bascule, moi, je ne rattraperai pas.
Et oui.
Mais en revanche, pour trouver son équilibre, alors là, c'est, je la prends bras le corps. J'ai mes...
Vous l'embrassez d'une certaine manière.
Je la prends dans mes, avec tout mon corps. Je la porte avec les jambes. C'est vraiment.
C'est quelque chose de très sensuel aussi.
Ah, c'est très sensuel, oui, mais c'est très sensuel et c'est, mais c'est vraiment, c'est un corps à corps. Et c'est assez beau.
Et quand vous disiez tout à l'heure que tout le monde, peu ou prou, avait joué avec les pierres, et puis vous, que vous vouliez initier, que vous faisiez des émules, donc en expliquant comme ça toute cette démarche, est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, c'est quasiment indispensable pour nous, êtres humains, d'avoir ce rapport avec la pierre, pour être en accord avec ce que nous sommes, en sachant que nous venons, et puis que, comme ça, et que nous sommes aussi tout petits, comme vous
le disiez. On est tout petit, oui. Je crois que j'aurais pas la prétention de dire que c'est indispensable.
Mais je sais combien ça fait. Pour mieux appréhender, oui. Je veux dire, notre condition, ben ça, dans ce sens-là, je
sans doute.
Dire.
Oui, sans doute. C'est vrai que c'est un beau parallèle, presque une allégorie de la vie. Mm-hmm. Cette façon de lever les pierres, de les voir.
Prendre vie d'une autre manière.
Voilà, elles prennent vie. On organise le chaos. Dans ce chaos du sol, on va organiser et se lever. L'homme s'est levé un jour aussi. Mm-hmm. Hein. Donc, on lève les pierres un peu de cette façon aussi. Mais c'est surtout une... Je crois que le gros enseignement qu'il y aurait à dire, c'est l'humilité, bien sûr. Le fait de... On est obligé, quand on va lever les pierres, on est obligé d'être bien camper sur
oui.
soi.
D'être, d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol.
Voilà. Et quand même, quand la pierre est petite, on ne va pas le faire en étant nous-mêmes en déséquilibre. Donc on va s'agenouiller pour être à la hauteur. Ce n'est pas une force, c'est une sensibilité. C'est juste sentir comment, en fait... bien sûr, je parle beaucoup avec les mains. Hein. Ça sert à rien dans la radio. Mais moi, ça m'est sûr. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que tourner avec la pierre, la sentir, voir à quel moment elle... Non, elle balance trop de ce côté-là. Il faut aller trouver de l'autre côté. Donc, tout ce travail sur l'équilibre qui est d'abord fascinant, on éprouve un calme, je peux le dire, parce que j'ai beaucoup emmené de gens.
Une forme de sérénité, vous diriez ?
Oui. Et puis on est en train aussi de travailler sur notre propre équilibre.
Oui, forcément. Hein, c'est voilà. Indispensable, sinon.
Voilà. Donc tout ce travail-là est assez intéressant quand même.
D'accord. Donc ça, c'est le 10 août que vous proposez cela. Oui. Et après, donc vous retrouvez à 15h, c'est ça ?
Alors non. En fait, j'ai mal écrit.
Je l'ai lu sans voir.
C'est de ma faute parce que j'ai mis jusqu'à 15h. Qu'on finit par un pique-nique vers 15h, oui. En fait, c'est le tout qui se termine. Parce que la marche ne va pas être très longue. Mmh. Allez, on va dire qu'on va rester 2 heures, on va marcher 2 heures, 2h30 si on veut vraiment traîner. Mmh. Et après, on va pique-niquer. Mmh. Et on va terminer vers 15h.
Chacun amène son pique-nique, c'est ça ?
C'est le pique-nique tiré du sac, j'ai appris que c'est comme ça qu'il fallait le dire. Mmh. Comme ce sera au hameau des Truelles, on pourra sans doute trouver. Il y a le gaïec des Truelles. Mmh. Ce sont des gens qui sont venus. Alors, il y a un boulanger qui fait du très très bon pain. Il y a des bergers qui ont des chèvres et des brebis et qui vendent de très bons fromages.
Ah, d'accord.
Alors, je ne saurais que conseiller aux gens s'ils ont envie d'avoir du pain, de peut-être téléphoner parce que, ne sachant pas, le boulanger, lui, fait d'habitude son marché. Je pense qu'il fera aussi son marché. Il a ses clients.
Oui, bien sûr.
Donc,
oui.
Si on veut du pain de là-bas, il faudra se téléphoner. Voilà. Il faut chercher le hameau des Truelles, le boulanger. Les fromages, des brebis et des chèvres.
Voilà.
Et après, on recommencera. Alors, ensuite, c'est terminé. On essaiera donc de fixer un peu plus certaines pour les assurer parce qu'elles seront grandes. Mmh. Et c'est vrai que nous recommencerons le 3 octobre.
Et pourquoi la date du 3 octobre ?
Le 3 octobre...
Est-ce que c'est symbolique ou c'est simplement...
Non, cette fois-ci, c'est pas... C'est assez rigolo. Non, c'était pas du tout symbolique. C'est parce qu'on a regardé au mois de septembre la disponibilité. Nous, on est aussi en train de... On organise aussi
les arts en balade.
Les arts en balade, les ouvertures d'ateliers d'artistes à Toulouse.
Troisième week-end de septembre.
Dernier week-end de septembre.
Dernier
week-end de septembre. Donc, bon, septembre, ça va être un peu chaud pour nous.
Oui.
Et puis, le 3 octobre, c'était juste après le... les arambalades. Donc oui, c'était un bon moment. Et il se trouve que c'est très drôle parce que le 3 octobre, j'avais un peu oublié que c'était ma première exposition. 3 octobre.
Ah oui, tiens donc.
Une performance, 3 octobre. Enfin, c'est voilà. Et donc, ça revient.
Chiffre, d'accord.
C'est bizarre.
C'est récurrent.
Oui, c'est étonnant, mais ça revient toujours.
Et
comme
c'était
ça.
Où votre première exposition?
C'était à Marseille, dans une petite maison des associations à La Ciotat. Mmh. À La Ciotat où j'habitais. Mmh. Voilà. Alors, c'était vraiment les balbutiements de mon travail. Mmh. Et c'était c'était encore vraiment les balbutiements. J'en étais pas encore à me dire que j'avais envie de faire des performances avec des gens qui viennent, de la musique peut-être. Voilà, ça c'était autre chose.
Et puisque tout à l'heure vous m'avez dit que vous aviez déjà travaillé avec des danseuses ou des chorégraphes,
oui.
Des danseurs, est-ce que vous avez travaillé aussi avec les gens qui font chanter les pierres, c'est-à-dire qui sont des musiciens mais qui utilisent les pierres? Parce que une année au hangar, dans le cadre des Brissonnantes, qui est un festival qui maintenant n'a pas eu lieu ni cette année, ni l'an passé. Enfin, cette année, il a eu lieu, mais de façon très très courte, dans un autre endroit un peu à la campagne, mais en fait, ce n'était pas la dimension que ça aurait dû avoir. Et donc, c'est consacré à la poésie sonore sous toutes ses formes. Alors, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui éructent aussi, il faut dire des choses comme ça, il y a des gens qui dessinent. Enfin, et une année, comme invité, il y avait quelqu'un qui faisait de la musique avec des pierres, c'est-à-dire il avait disposé des pierres soit il passait la main, soit il passait une baguette en bois, soit au contraire quelque chose en métal, et forcément ça donnait des sons différents.
Eh bien oui, bien
sûr. Et ça renvoyait à quelque chose de très cosmique que je trouve c'était très impressionnant. Donc est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre d'artiste?
Non.
Parce que les pierres aussi, selon leur origine, et si du calcaire ou de l'argile, ce n'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose.
Ni au toucher, ni à la sonorité, ni à l'odeur, ni à rien. Quoi.
Enfin, rien du tout. Et si
il y a l'histoire, d'ailleurs.
Et si on rencontre le basalte, et particulièrement la phonolite, qui est une variété de basalte qui a refroidi très très lentement, alors là, c'est carrément... La phonolite, c'est pas pour rien, c'est un bruit de verre, c'est magnifique.
Oui.
Donc oui, c'est vrai que j'adorerais ça.
Mais j'essaierai de retrouver le nom de ce monsieur, je vous le dirai.
Oui.
Qui faisait ça. Je crois qu'il vit dans le centre de la France. Moi, j'avais été impressionnée et j'avais été vraiment ébahie par ce qu'il faisait. C'était extraordinaire.
J'adorerais ça, oui. Il faudrait qu'on le connaisse, celui-ci. Oui.
Voilà.
Oui. Quelle belle idée, c'est vrai. Oui.
Nous écoutons peut-être un morceau choisi par vos soins. Un morceau musical, je m'entends. Pardon. Si vous vous souvenez, ça ne fonctionne pas?
J'ai pas trouvé Sting.
T'as pas trouvé Sting?
Non.
Fragile. How fragile we are.
Je l'ai pas trouvé.
Il y a peut-être un morceau de Ness.
Un petit morceau de Ness.
Un petit morceau, le premier
vous
morceau de
Ness,
par exemple.
Vous voulez nous parler de ce groupe, puisqu'apparemment, vous voulez nous le faire découvrir, et vous l'aviez découvert dans le cadre des...
C'était le conseil départemental, c'était le début de Jazz, Jazz 31, sans
doute.
Ah
oui, d'accord.
Et c'était, il doit y avoir déjà 2-3 ans, puisque maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'on se cogne le Covid, presque. donc c'était avant, et c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, et je trouvais que c'était bien de les faire connaître
quand même.
Hein.
Ouais.
Ils sont pas très connus, et c'est vraiment bien.
Donc, on écoute le morceau Alam.
Allez, d'accord. Ness, N-E-2-S.
يترجلي بالشعور وأشواقي وفي فرح قروبك في الليل إحساسي غريبة أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا 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 أميلة بلا إحسان أعيش زيك.
Voilà, le disque bloque un petit peu, on dirait. Je suis désolé. On peut peut-être essayer un morceau d'après, si tu veux.
Oui, il y a eu juste un petit souci avec le disque, avec cette chanson-là, mais ça arrive. Nous allons essayer un autre morceau.
You made it.
Ok, merci.
Hard.
Wake up in the morning so early, baby. This is too crazy. My nights are full of colors and dreams, so you know I still feel dizzy. But I don't want to complain. It's hard for me. Oh, but you made it hard.
Fabien nous fait de grands signes, il y a un souci avec ce CD apparemment.
Non, eh ben on l'enlève, il ne doit pas aimer.
On va passer un autre morceau d'Agnès Sobel peut-être. Non, vous êtes d'accord?
Bah oui, bien sûr.
Parce qu'Agnès Sobel, elle a une voix très, très agréable.
Mais c'est bizarre ce disque, il était parfait. Il n'aime pas cette céréo, cette chaîne.
C'est possible.
Peut-être j'ai mis un poil dessus, allez savoir, avec ma barbe.
Possible.
Hein. Non, mais c'est voilà, ça arrive. Hein, il y a incompatibilité peut-être.
On va le réessayer.
Pour le CD, la machine.
On va s'avouer vaincu. C'est comme les cailloux, il faut s'y reprendre à plusieurs fois.
Voilà, très modestement, on se calme et on recommence. Non.
Non, il y a un souci, vraiment. Ah, oui.
Vraiment, désolé.
Ah oui, là.
Bon, souvenez-vous, recherchez Ness, voilà. N-E-2-S.
C'est un groupe de la région, ça.
Je crois qu'ils sont pas très loin, oui.
D'accord.
On écoute peut-être Stone.
Hein?
Stone.
Allez, vas-y.
Un morceau.
Oh bah c'est de circonstance.
Ah oui, quand même.
Agnès Sobel, Stone. Pas mal.
Et comment avez-vous découvert Agnès Sobel? Comme ça, parce que...
C'est l'ami de mon fils Yvain.
D'accord.
Qui, lors d'une performance, m'a offert.
D'accord.
Yvain qui est décédé. Et lors d'une performance pour un 17 mars, puisqu'il est décédé un 17 mars, m'a amené ce,
d'accord,
ce disque.
D'accord.
Parce que c'était une amie très chère d'Yvain.
D'accord, d'accord. Merci.
You.
Donc voilà, nous avons écouté un second morceau d'Agnès Sobel. Et donc, vous vouliez peut-être apporter des précisions quant aux horaires et ce que vous aviez mis sur le site pour la journée du 10 août, c'est-à-dire un mardi.
Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est bien de 10h à 15h.
Rendez-vous, c'est 10h. Hein.
Rendez-vous, 10h. Et puis ensuite, on marche. On va arriver vers midi, midi et demi, ou un peu plus tard peut-être quand même, au hameau des Truelles. Et ça devrait tout ça se terminer vers 15h, c'est plutôt
d'accord.
Ça, voilà. C'est,
mm-hmm.
Bon, ça se termine vers 15h.
D'accord, et donc le pique-nique aura lieu avant, c'est ça?
Le pique-nique aura lieu avant, quand on arrive au hameau des Truelles, il y aura des tables sous des arbres réservés et tout.
Par voilà. Grade bucolique. Donc.
Voilà, ce sera...
Parce que oui, quand vous dites que ça peut durer peut-être un peu plus de 2h, tout dépend aussi, oui, de la condition des marcheurs et aussi de la façon dont les pierres veulent bien
voilà.
Danser avec vous. Il y a
c'est
ça aussi, il faut le prendre
c'est,
en compte.
C'est toutes ces rencontres
si
que
elles sont
va
capricieuses,
voilà.
Si le vent s'en mêle ou...
D'abord, si elles sont un peu capricieuses.
Ou s'il fait trop chaud, si le soleil cogne, parce que...
Il y a ça, et puis surtout, c'est quand on va les croiser, est-ce qu'on aura envie de les lever? Il
oui.
Y en a qui auront envie de les lever, d'autres un peu moins, mais on va s'entraîner, c'est vraiment...
Il va falloir composer aussi avec le nombre de personnes, si...
Ben oui, et puis ben, on va voir comment ça se passe, et puis les interventions que les uns ou les autres auront envie de faire ou pas.
Mmh.
C'est très ouvert, et j'aime bien le faire comme ça. J'ai souvent fait comme ça dans mes performances, et j'aime que les gens puissent intervenir comme ils veulent et s'approprier la chose. Et puis après, on ne sait plus qui fait quoi. Et il n'y a pas un artiste, mais il y en a plein qui arrivent.
Oui,
qui
c'est d'être ensemble dans un lieu bien précis.
C'est d'être ensemble et de se faire plaisir
et
tous ensemble.
Et de créer ensemble.
Voilà,
et...
C'est pour ça que...
C'est de vivre une histoire commune, c'est
oui,
le cas
c'est
de
ça.
Le dire.
Et puis après, sur ce chemin, le chemin sera jalonné de... petites pierres qui se seront levées, parce que forcément ce ne seront pas des géantes, mais elles resteront le temps que le vent l'accepte, le temps que un oiseau, peut-être qu'un oiseau va se poser sur une pierre et bang, faire tomber, peut-être pas, ou tout simplement une petite brise et, ou rien du tout, hein, parce que l'équilibre était fragile et les pierres tombent.
Et ça renvoie à la fragilité de la vie, en
exactement.
Fait.
Exactement, c'est ça. C'est vraiment cette espèce d'allégorie, enfin, cette image-là m'a toujours beaucoup émue. Je suis très émue par notre fragilité, forcément.
Et le 3 octobre, là, il y aura dans la balade aussi, et il y aura aussi des levées de pierres.
Oui, oui, bien sûr.
Ça sera donc...
Ben oui, parce que là, ce ne seront pas les mêmes, parce que et je sais qu'il y a des tas de gens qui... la performance qu'on fait en août... il y a bien sûr des gens qui vont pouvoir venir, mais il y a aussi des agriculteurs qui ne pourront pas venir.
Parce qu'ils sont occupés dans les
champs. Et puis il y a
par
des gens
travaux,
qui
font
le travail qui ne pourront pas venir. Donc,
et après, il y en a d'autres qui sont en vacances, peut-être.
Et il y a des vacanciers. Et puis après, il y en a qui peuvent s'échapper un peu.
Oui,
mais
oui.
Après, le 3 octobre, ce sera un dimanche. Donc là, ce sera peut-être différent, un autre public. Puis j'espère qu'on aura eu l'occasion de... rencontrer des écoles ou
ce serait intéressant
d'inviter des enfants, parce que alors les enfants sont complètement fous de ça.
Ah oui,
aussi,
ça j'imagine, oui.
Ça, c'est
et en
très
plus
drôle.
Avec l'imaginaire des enfants,
oh
parce
là
que
là.
Une pierre, on peut croire que c'est un animal.
Ah oui, ils s'inventent des choses, c'est extraordinaire. J'ai toujours vu ça dans les performances et dans tous les ateliers que j'ai pu faire au bord de sur la plage du Prophète. J'ai très très longtemps, très souvent fait des ateliers avec des gens du quartier de Bassins, c'est un quartier nord de Marseille. Et donc, on invitait beaucoup de... Enfin, il y avait des gens qui venaient des quartiers nord ou de la Maison pour tous, Panier Joliette. Et puis, il y avait les gens qu'on croisait. Donc, une école. Et puis, les performances. Alors là, les enfants...
Ah oui, j'imagine. Oui.
Voilà, c'est pour tout âge.
Et en plus, bon, le 3 octobre, la lumière ne sera pas la même.
Ah, pas du tout.
Ni la température.
Ni la température.
Ni l'ambiance. Ni
l'ambiance,
la nature environnante.
Voilà.
Les feuillages seront plus roux.
Ça va être totalement différent.
Et la luminosité, surtout, ça ne sera pas du tout la même.
Ah, certainement, oui. Ça, c'est, sans doute, ce ne sera pas la même. Déjà, il paraît qu'il va faire quand même beau cette fois-ci. Le 10, en octobre, on verra.
Il faut prévoir des grands chapeaux, s'il fait soleil.
Je pense qu'il faut prévoir de l'eau.
Et des lunettes.
Des lunettes, des chapeaux, éventuellement des gants, parce que...
Pour pas se...
Quand on lève...
Oui.
Par expérience.
Oui.
ma première performance qui était... Non, c'était pas la première, mais à chaque fois, j'avais les mains qui partaient en...
Oui.
Qui pelaient pendant longtemps. Enfin, quand on fait une performance de 10
oui,
heures à peu près, quand on fait les installations pendant 10 heures...
Oui, la pierre, oui, malgré tout. Oui.
C'est quand même un peu abrasif à force.
Oui, face à la fragilité de la peau, effectivement.
Quand même.
Oui.
quand même. Donc, des petits grands, c'est pas mal aussi d'y penser.
Oui, mais c'est bien de le dire.
Oui, voilà. C'est pas mal. J'aurais pu y penser aussi dans les documents.
Mais c'est-à-dire, c'est plutôt le style de gants qu'on emploie les jardins pour faire quand on fait du jardinage.
Oui, des gants de jardinier.
De jardinage, c'est
oui.
ça.
Oui, plutôt fin. C'est pas la peine de prendre des gros trucs parce
oui, mais
tout ça, c'est dans la sensibilité du bout des doigts aussi, hein, trouver l'équilibre.
Oui, bien sûr.
Mais,
oui,
c'est bien. Après, on peut faire quand même sans. Hein. Moi, j'ai bossé des mois et des mois et des années sans gants.
Mais maintenant...
J'ai fini par apprendre.
Oui,
j'ai fini par apprendre. C'était pas mal, les gants.
D'accord.
C'est pas mal.
OK. Donc, le rendez-vous est mardi à 10h.
Mardi 10 à 10h.
Voilà, c'est le 10 à 10h.
Ouais, le 10 à 10h au hameau...
Saint-Martin de Larzac.
Au village de Saint-Martin du Larzac.
D'accord. Et c'est près de quelle grande... Enfin, de quelle...
Larzac. On monte au Larzac.
D'accord.
Et Saint-Martin...
C'est visible.
Oui,
c'est...
oui, c'est visible. Sur la route de Montredon, c'est visible, mais... Saint-Martin est indiqué de toute façon.
D'accord.
Et puis nous, on va mettre aussi des flèches.
Ah oui. Vous avez...
Il ira de suivre les pierres à lever.
Et non, elles seront derrière.
Ah.
Pas sur la route. on les voit pas de la route et du village. Il faut aller derrière. Mais on va tout indiquer.
Ça sera vous avez fait il y aura du fléchage.
Oui, il y aura du fléchage. Oui.
D'accord. Et justement, comment c'est... Puisque vous avez travaillé en collaboration avec les gens du Larzac, enfin ceux qui ont fait partie de ces luttes, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Comment ils reçoivent cette proposition de faire cette balade et de le symboliser comme ça par ces guetteurs?
Ah ben, on va voir. C'est parce que ça, c'est tout le travail que Pierre Vuarin, justement, a fait.
D'accord.
En
amont, donc.
En amont, il est allé beaucoup et il continue encore beaucoup à aller rencontrer les gens,
il
à leur expliquer.
Le,
oui.
Voilà,
et puis que c'est un travail en groupe aussi, même si l'équilibre, on le trouve seul. Mm. C'est aussi un travail, c'est une expérience en groupe qui est assez intéressante. Et puis, c'est aussi, il ne faut pas oublier que ça s'appelle la relève. Pourquoi la relève? Parce que, bien sûr, moi, je fais relever des pierres, c'est un parallèle. Mais c'est aussi, après 50 ans de lutte, c'est forcément ceux qui ont lutté. Les agriculteurs, ont la plupart du temps, les anciens, ont pris leur retraite.
Oui.
Et c'est aussi saluer la relève de tous ces jeunes qui sont venus et qui viennent encore habiter les fermes. Qui
sont là,
qui sont libérés,
qui ont perduré
par les fermiers qui ont travaillé dans ces fermes, qui les laissent à la retraite, et donc c'est la relève qui se passe.
Oui,
c'est très intéressant parce
la continuité. Oui.
C'est la continuité puisqu'en fait les fermes appartiennent à l'association de la PAL, je crois.
D'accord. Okay, et c'est aussi il y a le fait de que ces fermes continuent à être des fermes. Ça, c'est une première chose, et donc que des gens continuent à y vivre, à pouvoir y vivre, parce qu'il y a ça aussi. Mais c'est aussi, me semble-t-il, une façon aussi de maintenir ce flambeau de la révolte, en fait,
et
de la rébellion.
Oui. Après, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. C'est que faut pas oublier. En plus, c'est vrai que le Larzac, c'est quasiment le l'ancêtre des luttes comme des ZAD.
Mm. Oui, d'une certaine manière.
D'une certaine manière, c'est ça aussi. Et c'est quand même... ce qu'il y a, c'est que dans le Larzac, on parle beaucoup de cette lutte. Mais il y a aussi les jeunes qui sont arrivés et qui reprennent et qui transforment.
Mm-hmm.
Et donc, c'est aussi eux qu'on salue.
Bien sûr, oui.
Voilà, c'est surtout ça aussi. C'est... Uh-huh. C'est transmettre. Moi aussi, par exemple, moi, ça, lever des pierres, je ne vais pas le faire encore très longtemps. C'est quand même un peu fatigant.
Un peu pénible.
Pas pénible, fatigant.
Oui.
Après, le corps déguste un peu quand même. Enfin, pour moi, qui en ai levé beaucoup, de très lourdes et tout, c'est un peu...
Sans gants.
Sans gants, le dos, machin. Donc, voilà, mais... Donc, d'une certaine manière, on passe le flambeau.
Oui, il y a la transmission.
Voilà, c'est une histoire de transmission aussi, de passer le flambeau.
Et
d'accueillir les autres.
Nous allons nous séparer sur ces très belles paroles. Je vous remercie, Véronique.
Merci.
Et merci, Fabien.
Peut-être une précision. Vous avez une adresse qu'on puisse vous contacter
Ça, c'est pas bête. Véronique Bril, @gmail.com. C'est bon, ça?
Oui. Les gens vous retrouveront.
Ou sinon, Véronique Bril, BRI2L, ça va, on me trouve.
Oui, on tape Véronique Bril, on voit des trucs. Oui.
J'ai un site internet... qui est en train d'être refait, mais qui est quand même visible. Et j'ai une adresse internet.
Voilà, donc pour plus de renseignements, et puis pour vous contacter, on ne sait jamais.
Ah oui, sans problème, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, bien sûr. Et on trouve aussi mon téléphone, si on le veut.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Après, merci de m'avoir accueilli. Et bonne journée à tous.
Merci.